Et oui, il est venu de prendre des nouvelles de l'Union européenne, comme toujours avec vous, Camille Djurovic. Bonjour.
Bonjour, Nicolas Dufour.
Vous êtes responsable du Centre Europe Direct Territoire Lorrain pour Citoyens et Territoires Grand Est et vous êtes venu à nouveau aujourd'hui avec Adam Bailly de ce même Centre Europe Direct. Bonjour, Adam.
Bonjour.
Alors, trois actualités aujourd'hui. On va commencer par l'aide humanitaire conséquente pour la Grande Corne de l'Afrique. Elle représente 331 millions d'euros, Camille Djurovic.
Oui, Nicolas. Alors, la région de la Grande Corne de l'Afrique est aujourd'hui confrontée à de multiples crises humanitaires qui se chevauchent. Alors, ce sont aujourd'hui plus de 50 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Et dans ce contexte, la Commission européenne va fournir 331 millions d'euros d'aide humanitaire.
À quoi vont servir ces fonds?
Eh bien, ils vont servir à lutter contre l'insécurité alimentaire, à la protection des civils et à la lutte contre les violences sexistes. Ils vont aussi servir à mieux répondre aux besoins urgents des personnes déplacées et des réfugiés, à la préparation aux catastrophes et à l'éducation en situation d'urgence.
Donc 331 millions d'euros, c'est une aide conséquente. Quels sont les pays qui vont en bénéficier?
Eh bien, le financement, il va soutenir des projets humanitaires à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et en Ouganda.
Dans quel contexte?
Eh bien, environ 14,5 millions de personnes sont des personnes déplacées dans la région de la Grande Corne de l'Afrique, tandis qu'environ 4 millions de personnes sont des réfugiés. Alors, dans la région, des millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire.
C'est dramatique, bien sûr, mais il y a forcément une explication. Quelles sont les causes?
Oui, alors une grande partie a pour origine les conflits qui entraînent des déplacements massifs de population, mais aussi le changement climatique, responsable entre autres de la sécheresse, des inondations et des mauvaises récoltes. Alors on peut aussi citer la flambée de l'inflation ou encore les conséquences de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine qui là aussi ont un impact direct sur la sécurité alimentaire de ces populations.
Et quel rôle joue l'Union européenne en matière d'aide humanitaire ici?
Eh bien, Nicolas, l'Union européenne est le premier pourvoyeur d'aide humanitaire dans le monde. Alors, pour la période 2021-2027, l'instrument d'aide humanitaire est doté de 11,6 milliards d'euros. Cet instrument, il permet de financer l'essentiel des secours d'urgence aux victimes de catastrophes d'origine humaine ou naturelle. Et la Direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européenne, ECHO, de la Commission européenne, est responsable des opérations d'aide humanitaire et de protection civile. Alors, cette aide humanitaire apportée par l'Union européenne, elle se concentre sur l'alimentation et la nutrition, la fourniture d'abris, la santé, l'eau et l'assainissement et l'éducation dans les situations d'urgence.
Donc la Direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européenne, dites-vous. Comment travaille-t-elle concrètement, cette direction qu'on appelle ECHO?
Eh bien, la DG ECHO n'a pas la possibilité de mener des actions directes sur le terrain. Elle ne possède ni matériel ni personnel adapté à ce genre de réponse. Par contre, elle évalue les besoins apportés, elle sélectionne les opérations et elle distribue les aides à ses partenaires, donc qui sont autour de 200, comme par exemple la Croix-Rouge, les agences des Nations Unies et de nombreuses ONG. Elle a aussi la charge de s'assurer que les fonds soient utilisés d'une manière transparente et que les partenaires rendent des comptes.
Eh bien, merci, c'est plus clair. Donc on note le montant consacré pour cette aide humanitaire pour la Grande Corne de l'Afrique, 331 millions d'euros. C'est une somme, mais ce n'est pas grand-chose par rapport au plan de relance de l'Union européenne. 150 milliards d'euros doivent être versés aux États membres, Camille.
Oui, tout à fait, Nicolas. Alors pour vous recontextualiser tout ça, vous vous souvenez sans doute, et on l'aborde régulièrement dans cette chronique, il s'agit donc du plan de relance européen, aussi appelé Next Generation EU, doté d'un montant de plus de 750 milliards d'euros adoptés suite à la pandémie de Covid-19 pour stimuler la reprise économique.
Et où en est-on aujourd'hui?
Eh bien, suite au paiement de 6 milliards d'euros qui vient d'être versé jeudi 31 mars en faveur de l'Espagne, le montant total des financements européens versés par la Commission européenne aux États membres au titre de ce qu'on appelle la facilité pour la reprise et la résilience atteint à présent 150 milliards d'euros.
Qu'est-ce que c'est la facilité pour la reprise et la résilience?
Alors, c'est un instrument financier au cœur du plan de relance européen. En un peu plus de 2 ans d'existence, la facilité pour la reprise et la relance a soutenu des réformes et des investissements transformateurs dans l'ensemble des États membres. Elle a permis d'accélérer les transitions écologiques et numériques et de renforcer la résilience globale de l'Union européenne.
Quels sont les projets cofinancés ?
Eh bien, la Commission européenne a mis en ligne jeudi 31 mars une carte interactive qui montre les projets soutenus par cet instrument et déployés donc sur le terrain par les États membres. La carte permet de mieux comprendre les bénéfices de la facilité pour la reprise et la relance pour les citoyens, les entreprises et la société civile de l'Union européenne.
Donc un vrai souci de transparence, parce que j'imagine qu'on y accède tous à cette carte interactive.
Bien sûr, Nicolas.
Vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples hein.
Eh bien, la carte recense actuellement plus de 100 réformes mises en œuvre par les États membres dans le cadre de leur plan pour la reprise et la résilience. On peut citer en exemple la mise en place d'une nouvelle taxe sur les emballages en plastique à usage unique en Espagne, la simplification des procédures d'autorisation pour l'installation d'énergies renouvelables en Grèce ou encore une réforme anticorruption en Croatie. 250 investissements sont également présentés, comme par exemple la réorganisation du système de transport public à Riga, en Lettonie, la mise en place d'un abonnement forfaitaire pour faciliter les transports publics durables en Autriche, ou encore des travaux de rénovation de quartiers défavorisés en Slovénie. Alors cette carte, elle va être régulièrement mise à jour au fur et à mesure de l'avancement des plans nationaux de relance et de résilience. Vous pouvez aller jeter un œil sur la carte qui est disponible sur le site de la Commission européenne en tapant « Facilité pour la reprise et la résilience » dans la barre de recherche.
Et pour nous faire une idée, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un projet cofinancé par l'Union européenne sur notre territoire avec le plan de relance européen?
Oui, alors on peut citer par exemple le projet OTK du Centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Alors le projet cible les patients qui sont atteints d'obésité massive, c'est-à-dire dont l'IMC, l'indice de masse corporelle, est supérieur à 35 et qui doivent recourir à une chirurgie bariatrique ou chirurgie de l'obésité qui vise justement à réduire la taille de l'intestin dans une perspective de perte de poids. Alors ces personnes sont souvent touchées de pathologies lourdes, plurifactorielles, qui n'est pas seulement liée au fait de manger en excès. Et cette chirurgie nécessite des traitements et un suivi à vie. Or, beaucoup de personnes opérées sont aujourd'hui perdues de vue. L'objectif principal du projet OTK est donc de proposer un suivi au long cours à l'aide du développement d'une solution numérique.
L'enjeu est de taille ?
Oui, l'enjeu est de taille puisqu'en France, en 2016, on a compté près de 60 000 opérations bariatriques par an. Alors en proposant un accompagnement global et dans la durée, l'objectif c'est d'assurer une meilleure observance des traitements et de garder contact avec les patients opérés. Le projet, il a aussi une dimension sociale puisqu'il vise également à améliorer la qualité de vie des patients et de leur entourage. Enfin, l'objectif, c'est aussi d'éviter d'arriver à des situations d'urgence, mais d'anticiper les interventions avec des patients programmés. Donc ce projet, il va pouvoir bénéficier des enveloppes réabondées du Fonds européen de développement régional.
Eh bien, merci Camille, c'est très clair. Je me tourne vers vous à présent, Adam Bailly, pour la troisième actualité, l'adoption par le Parlement européen d'une proposition de directive de la Commission européenne sur quoi ? Eh bien, sur la transparence des salaires.
En effet, Nicolas, selon de nouvelles règles adoptées par le Parlement européen lors de la session plénière du jeudi 30 mars, les entreprises de l'Union européenne devront fournir des informations qui permettent aux employés de mieux comparer les rémunérations et de souligner les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.
Alors pourquoi est-ce qu'il était nécessaire d'agir là-dessus, sur la transparence des salaires ?
Alors le principe de l'égalité des rémunérations est énoncé à l'article 157 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Cependant, dans l'ensemble de l'Union, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes persiste et s'élève à environ 13%. Il y a aussi des différences considérables entre les États membres et l'écart n'a que très peu diminué au cours des 10 dernières années.
Oui, c'est une question vraiment de justice. Sur quoi elles reposent ces nouvelles règles ?
Eh bien, selon les nouvelles règles, les travailleurs et les représentants auront le droit de recevoir des informations claires et complètes sur les niveaux de rémunération individuels et moyens par genre. Le secret salarial sera interdit et aucune clause contractuelle ne pourra empêcher les travailleurs de communiquer des informations sur le salaire ou de demander des informations sur la même catégorie de rémunération de travailleurs.
Et donc concrètement, que peut faire désormais un employé s'il constate un manquement à l'égalité salariale ?
En matière de rémunération, la charge de la preuve passera du travailleur à l'employeur. Si un travailleur estime que le principe de l'égalité de rémunération n'a pas été appliqué, il a la possibilité de porter l'affaire devant les tribunaux. Ainsi, la législation nationale devra contraindre l'employeur à prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.
Très bien. Et que se passe-t-il enfin si les entreprises ne respectent pas l'égalité femmes-hommes en matière de salaire ?
Alors si la déclaration des salaires révèle un écart de rémunération entre les genres d'au moins 5%, les employeurs devront procéder à une évaluation conjointe des salaires avec les représentants des employés. Les États membres devront mettre en place des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, comme des amendes. Un travailleur qui a subi un préjudice à la suite d'une infraction aura le droit de demander une indemnisation. Pour la première fois, la discrimination intersectionnelle et les droits des personnes non binaires ont été inclus dans le champ d'application des nouvelles règles.
Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Alors attention, ce n'est pas tout à fait en place encore pour l'instant, ces nouvelles règles. Elles n'entrent pas en vigueur tout de suite.
Eh bien non, le Conseil de l'UE devra officiellement approuver l'accord avant que le texte ne soit promulgué et publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les nouvelles règles entreront en vigueur 20 jours après leur publication.
Autrement dit, a priori, plutôt dans quelques mois.
Exactement, le vote devrait avoir lieu dans quelques mois.
Merci beaucoup Adam Bailly, merci également Camille Djurovic. C'était notre chronique consacrée à l'actualité de l'Union européenne avec Citoyens et Territoires Grand Est.
Merci à vous, à très bientôt.
Merci, au revoir.